France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
La semaine dernière, le préfet du Nord s'est opposé à l'ouverture d'une classe de CP au sein du groupe scolaire privé musulman à Véroès. L'établissement, régulièrement dans le viseur de la préfecture, a pourtant retrouvé son contrat avec l'État au terme d'une procédure en avril 2015. Alors au-delà du cas de l'établissement lillois, les écoles musulmanes en France apparaissent comme un observatoire privilégié des mutations de la laïcité et des contradictions des parcours d'ascension sociale des populations issues de l'immigration. Avec environ 13 000 élèves inscrits dans les établissements privés musulmans, ces écoles constituent une nouvelle réalité scolaire qui reste largement à documenter. Alors pourquoi certains groupes scolaires comme le groupe Averroès sont-ils toujours dans la lumière? Comment se sont développées ces écoles confessionnelles? Une invitée ce soir pour nous en dire plus, Diane-Sophie Girin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse post-doc aux séries de Sciences Po. Votre livre intitulé « À l'école musulmane, une école à soi dans la France post-attentat » vient de paraître au PUF, les presses universitaires de France. Et à mes côtés, pour m'accompagner dans cette interview, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
C'est extrêmement décevant parce que nous sommes prêts à accueillir ces enfants, parce qu'ils seront bien formés comme le collège et le lycée l'ont prouvé jusqu'à maintenant. Et ça, tout le monde est d'accord avec ça. Personne ne nous reproche évidemment la formation qu'on donne aux jeunes, mais c'est plutôt lié à des suspicions autour de l'établissement, qui sont celles que nous connaissons depuis de nombreuses années, et qui sont effectivement très, très contestables, que la justice en plus a balayé le 23 avril 2025. Donc nous dire il y a une influence, parce que jadis, il y a une association qui a fondé le lycée, vous voyez, ce sont des suspicions, pour moi, qui sont à la limite du complotisme. Hein. C'est pour dire, voilà, il y a des gens qui nous donneraient des ordres, il y a des gens comme ça au-dessus de moi qui me donnent des ordres à communiquer aux enseignants, puis aux élèves. Enfin, c'est ridicule, ça tient pas debout.
Éric Dufour, le directeur du groupe scolaire à Véroès, qui regrette donc le refus de l'ouverture d'une classe de CP à Lille. Si l'on commence par le début, tout simplement, Diane-Sophie Girin, pourquoi le groupe à Véroès se voit-il refuser l'ouverture de cette classe de CP?
Oui, alors je pense que il faut considérer Averroès comme un miroir de la gestion de l'islam de France, en fait. C'est vraiment un cas d'école pour comprendre cette gestion de l'islam de France en France. En fait, dès le départ, c'est un établissement qui va être très médiatisé. Le contexte de l'époque, on est en 2003, on a des jeunes filles voilées qui ont été exclues d'un lycée public de Lille, et donc elles sont accueillies au départ par une mosquée, puis une petite équipe qui s'organise pour permettre de les accompagner jusqu'au bac. Et il y a toute une équipe qui va s'investir comme ça dans le suivi de ces élèves et un projet d'établissement scolaire qui naît, des professionnels qui se mettent au service du projet en faisant des heures supplémentaires, etc. Et ça fonctionne. L'établissement ouvre et il se met à performer assez bien. Et donc, très tôt, l'établissement va obtenir un contrat d'association. Mmh. Et là aussi, il faut y voir, en fait, la gestion de l'islam en France. Parce que le contrat d'association vient récompenser un établissement qui fonctionne, mais aussi un établissement, en fait, qui a pris part au processus d'instauration du Conseil français du culte musulman par le biais de cette association dont parlait Monsieur Dufour, l'UOIF. Donc, voilà, il faut toujours remettre ça en perspective. Averroès, c'est un bon miroir de la gestion de l'islam de France. Et à un moment, il a été récompensé pour pour ce qu'il a apporté à la table de la République. Et aujourd'hui, la main qui a donné le contrat est aussi celle qui a repris le contrat, en fait, en 2023. Et aujourd'hui, qui s'oppose à l'ouverture de cette école élémentaire en mettant en avant le fait que cette association, l'UOIF, qui est devenue aujourd'hui musulmane de France, eh bien, ce serait une association frériste, et donc bah la menace séparatiste, la menace de l'entrisme, et donc bah à nouveau on voit les mutations de la gestion de l'islam en France.
Julien Bisson.
Pour être bien clair, Diane-Sophie Girin, un établissement sous contrat par rapport à un établissement hors contrat, quels sont les droits et les devoirs de chacun de ces deux catégories d'établissements?
Oui. Alors, il faut revenir à la loi Debré en 1959 qui permettait en fait à tout établissement privé qui en faisait la demande, en respectant des conditions assez minimales, d'obtenir des financements publics. Donc les conditions à respecter, c'est l'accueil de tous les élèves sans distinction d'origine, de croyance, etc. C'est de recruter des enseignants qui sont formés par l'éducation nationale et de suivre les programmes de l'éducation nationale. Dernière condition, séparer ce qui est confessionnel de ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre obligatoire des enseignements confessionnels dans un établissement sous contrat. Ensuite, il y a un financement assez massif de ces établissements qui passent sous contrat parce qu'aujourd'hui, ça représente quand même 75% de leur budget, le financement public. En fait, les salaires de leurs enseignants sont versés, ils peuvent toucher des subventions en plus qui sont pas forcément obligatoires. Et donc, c'est vraiment un financement qui est assez important. Les établissements hors contrat, eux, ils ont très peu d'obligations en fait à respecter, uniquement le socle commun, c'est-à-dire ce que tout élève doit connaître à la sortie de la période d'instruction obligatoire à 16 ans. Mais ils ne reçoivent aucun financement public.
Dans ce paysage-là, Diane-Sophie Girin, que représente justement le secteur privé musulman hors contrat? Il est archi minoritaire?
Alors, de manière générale, le secteur privé musulman est extrêmement minoritaire. En fait, l'enseignement privé sous contrat, c'est très très majoritairement l'enseignement privé catholique sous contrat. On a 7200 établissements catholiques sous contrat en France. L'enseignement privé musulman, de manière générale, c'est uniquement 70 groupes scolaires. Donc déjà, vous voyez, c'est très peu.
70 groupes et 114 établissements, il faut distinguer les deux.
Exactement, c'est ça, parce qu'un groupe scolaire peut avoir un lycée, un collège, une école élémentaire. Donc on a une centaine d'établissements. Et sur cette centaine d'établissements, on en a uniquement 6 qui ont aujourd'hui un contrat d'association avec l'État et qui, en général, un contrat partiel pour quelques classes, c'est-à-dire pas pour toutes les classes, puisque le contrat, il est passé de manière individuelle avec les établissements et d'abord par classe. D'abord une première classe, puis en général une seconde, ainsi de suite.
Julien Bisson.
On sait qu'une école hors contrat cédé-vacantiste, le cédé-vacantiste est un courant minoritaire et ultra-conservateur du catholicisme, va ouvrir près de Nantes à la rentrée prochaine. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un deux poids, deux mesures au sein de cet enseignement privé entre les écoles catholiques et les écoles musulmanes dans le regard qui est porté sur ces établissements?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, il y a des... En tout cas, il y a des principes qui s'appliquent à l'ensemble des établissements pour décider de l'ouverture de ces écoles hors contrat. Ces règles, elles ont changé récemment, en fait. Elles ont changé à partir de 2018, elles ont changé en réponse justement à l'émergence d'un secteur d'enseignement musulman. C'est-à-dire que c'est d'abord par les écoles musulmanes que la question s'est posée de faire évoluer la législation sur l'ouverture des établissements hors contrat. Et ce qu'on voit, c'est que ces changements, ils s'appliquent notamment aux écoles privées musulmanes. C'est-à-dire que dans les faits, il y a aussi des établissements catholiques qui peuvent dire que voilà, aussi ils ont rencontré des problématiques avec les académies, avec les inspecteurs. Toujours est-il que les cas les plus emblématiques d'ouverture empêchée ou de retrait de contrat d'association, ça porte sur les établissements privés musulmans.
Je voudrais vous faire entendre deux voix successives, celle de Laura et celle de Samy, deux parents d'élèves qui expliquent les raisons pour lesquelles ils ont placé leur enfant dans une école musulmane, des propos recueillis par RMC en 2020.
Le fait que j'ai mis ma fille ici, c'est par rapport au niveau scolaire qu'il y a. Au niveau de taux de réussite aussi. On veut le meilleur pour nos enfants et c'est vrai que cette école, elle le donne. Il y a très peu de classes très peu d'élèves, donc tout le monde se connaît. Tout le monde s'apporte de la bienveillance entre enfants.
Aujourd'hui, on a la possibilité d'en avoir un dans l'ouest de la France, un collège musulman, mais avant, on les mettait dans le catholique. Donc, ce qui change, c'est qu'ils ont des cours de culte ou cours d'arabe en plus. Et moi-même, ne parlant pas ou n'écrivant pas l'arabe, mes enfants m'apprennent quand ils rentrent à la maison l'arabe. Donc, c'est quand même un avantage.
Comment est-ce que vous analysez ces propos et par ailleurs, comment expliquer d'une manière plus large, aussi plus profonde sans doute, pourquoi des parents font le choix de mettre leurs enfants dans ce type d'école ?
Oui, alors il faut bien distinguer, je pense, les motivations des parents en fonction du type d'établissement qui est choisi. C'est-à-dire que moi, dans l'ouvrage, je me suis surtout intéressée aux écoles élémentaires, et donc c'est des motivations assez différentes de ce qu'on peut retrouver à Averroès, par exemple, gros lycée sous contrat. Donc c'est assez différent. Là, si je reprends les éléments qui ont été avancés par les parents, on voit le taux de réussite. Bah effectivement, comme je viens de le dire, les gros établissements sous contrat comme Averroès, Ibn Khaldoun, Al-Kindi, ils ont des taux de réussite très importants. C'est-à-dire que c'est des établissements qui sont régulièrement classés meilleurs lycées. Alors, ça a pu être meilleur lycée de France en 2013 pour Averroès. Ils sont d'ailleurs toujours meilleurs lycées au niveau régional. Ils ont d'excellents résultats et en plus, ils accompagnent très bien leurs élèves. Il n'y a pas d'écrémage. Ils ont beaucoup de boursiers et ils accompagnent tout le monde jusqu'au bac. Donc ça, c'est une réalité pour les gros établissements sous contrat.
Donc le critère de la réussite scolaire.
Exactement, le critère de la réussite scolaire est important pour ces parents-là. Le deuxième point qui était abordé, c'est tout le monde se connaît. Et il y a bien l'idée d'un établissement qui fait la continuité avec la famille. Une sorte de familialisme, dirait Philippe Mérieux. Il y a bien l'idée, là, d'avoir une cohérence entre ce qui est fait à la maison et ce qui est fait dans les familles. Et ça, on le retrouve de manière assez générale dans les établissements privés musulmans. L'envie, comme ça, de faire à l'école comme à la maison. Et donc, bah, aussi, de pouvoir exprimer ce qu'on est, en fait, dans le cadre de la maison à l'école. Ça, c'est assez important.
Mais est-ce que, je peux me permettre de vous couper sur ce point-là, est-ce que c'est pas orthogonal, c'est justement avec une vision très classique et très républicaine de l'école, selon laquelle l'école doit d'abord et avant tout arracher de la famille, instruire et permettre à chacun de s'instruire de la même façon. Cette opposition entre école et famille, elle est fondamentale dans l'idée qu'on se fait ou dans la philosophie même de l'école républicaine.
Oui, tout à fait. Et c'est en ça que les écoles musulmanes sont à rapprocher de toutes les autres offres scolaires qui ont émergé au cours des années 2000-2010. En fait, on retrouve comme ça beaucoup d'offres scolaires qui se déploient et qui mettent en avant cette chose-là, cette possibilité d'être à la maison comme à l'école. Donc, que ce soit des établissements privés catholiques hors contrat, qui sont véritablement catholiques, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils se présentent pour se différencier des établissements qui sont sous contrat, ou bien des établissements laïques même, avec des pédagogies alternatives, tout ce type de école démocratique, etc. Il y a tous ces établissements qui émergent et qui mettent en avant cette idée que on est entre nous, on est bienveillant, c'est comme la famille, etc. Et donc c'est évidemment en réponse à ce refus de cette école républicaine qui extrait l'enfant de son milieu social. Il y a vraiment la volonté d'un cocon protecteur. Et moi, c'est des choses que j'ai entendues sur le terrain. Bah voilà, moi, ce que j'apprécie dans cette école, c'est que les maîtresses, c'est comme des tatas. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, d'un entre-soi qui est recherché, avec aussi voilà, cette idée d'une bienveillance, d'une protection des enfants, aussi de l'hostilité que peuvent ressentir certains parents d'élèves musulmans.
Julien Bisson.
Est-ce que ça veut dire qu'au-delà même du cadre religieux, il y a une forme dans ce choix de défiance vis-à-vis de l'école publique, y compris du niveau de l'école publique, ou est-ce que le critère religieux reste quand même décisif ?
Alors, je dirais que les deux dynamiques sont complètement à l'œuvre. Déjà, parce que les fondateurs et les fondatrices de ces établissements, ce sont des personnes qui sont nées, qui ont grandi en France, dans des quartiers populaires, et qui ont elles-mêmes fait l'expérience de l'école publique, et parfois du déchirement dans cette école publique, entre leur identité en tant qu'enfants musulmans issus de milieux modeste, populaire, ouvrier, et l'école publique. C'est-à-dire qu'ils l'ont ressenti dans leur chair Et bien qu'ils aient connu une ascension sociale par l'école, hein, c'est des gens aujourd'hui qui appartiennent aux classes moyennes et qui ont accédé à ces classes moyennes bien souvent par leur diplôme, eh bien, ils veulent éviter à leurs enfants cette expérience du déchirement, qui est une expérience que beaucoup de transfuges de classe décrivent, en fait. Annie Ernaux, elle parle très bien de ça dans Les Armoires vides, par exemple. Et là, il faut rajouter une couche supplémentaire, qui est le déchirement entre la culture qu'on a à la maison, la religion qu'on a à la maison, et ce qui est vécu au sein de l'école, l'école laïque, où voilà, il n'y a pas de place pour l'identité confessionnelle, pour la langue arabe, etc. Et donc il y a cette demande pour leurs propres enfants de leur éviter ça, en disant bah, peut-être que nous, on va pouvoir offrir quelque chose de plus cohérent, où l'élève bah, sera bien, il pourra s'épanouir en fait dans ce qu'il est, il pourra être lui-même. Voilà, il y a cette idée d'être soi-même qui revient en permanence.
Oui, il y a quand même des écoles, il y a quand même des élèves qui sont bien dans l'école républicaine également, bien sûr.
Évidemment. C'est une toute petite minorité, hein, c'est 13 000 élèves sur 12 millions. Donc
je leur précise, bien sûr. Du point de vue aussi de ces fondateurs, est-ce que c'est compliqué de mettre sur pied une école comme celle-ci, du point de vue des aides, du point de vue de la relation aussi aux administrations publiques, du point de vue du projet scolaire et éducatif ?
Oui, c'est compliqué comme entreprise, parce que ça nécessite des ressources importantes. Tout simplement, il faut un local, par exemple. Or, les ressources sont limitées au sein des communautés musulmanes, parce que cette communauté est d'abord beaucoup formée par des gens qui appartiennent à des milieux modestes. Donc, c'est compliqué de s'organiser, de trouver de l'argent, de trouver des locaux, ce qui les amène parfois à partager par exemple les locaux avec la mosquée. Or, du point de vue des pouvoirs publics, c'est pas possible, tout simplement pour des raisons de sécurité. Il faut protéger les élèves. On peut pas effectivement mettre les élèves au contact de personnes qui sont extérieures et qui vont et qui viennent au gré des prières, etc. Donc, il y a des difficultés matérielles. Et puis, depuis 2015, bah, le contexte s'est tendu, en fait. Après les attentats, il y a eu la volonté finalement d'être particulièrement vigilant sur ces écoles privées musulmanes, parce qu'on s'est dit, mais attention, est-ce qu'on va pas passer à côté de quelque chose ? Et donc, une vigilance qui s'est traduite par des changements dans la législation, des contrôles accrus, des motifs pour empêcher les ouvertures qui se sont multipliées. Et donc, finalement, les écoles privées musulmanes, eh bien, elles ont de plus en plus de mal à ouvrir. En fait, moi, quand je fais la chronologie des ouvertures, quand je fais la frise, bah, je me rends compte qu'il y a quand même un coup d'arrêt à l'enseignement privé musulman à partir de 2018, où on a très peu de nouvelles ouvertures. Et par exemple, cette année, je n'ai pas trouvé de nouvelles ouvertures, alors que voilà, du côté de l'enseignement hors contrat non musulman, il y a cette année encore 78 nouvelles ouvertures. Donc, on peut se poser la question de la difficulté spécifique à laquelle font face ces établissements.
Julien Bisson,
qu'en est-il des enseignants que vous avez pu rencontrer dans votre étude ? Quel est leur profil ? Qu'est-ce qui les amène à enseigner dans ces écoles musulmanes ?
Oui, alors les enseignantes, il y a des parallèles à faire avec les élèves et la volonté finalement de contourner l'école publique. C'est-à-dire que pour une partie des enseignantes, elles ont été formées à l'école publique, elles ont enseigné dans les écoles publiques et elles en sont parties. Celles qui en partent sont celles qui désirent porter un foulard dans l'exercice de leur fonction. Elles ont choisi d'enseigner, c'est un métier qu'elles ont choisi par vocation, comme beaucoup d'enseignants, mais elles souhaitent l'exercer avec leur spécificité, c'est-à-dire en couvrant leur tête. Et c'est évidemment impossible en tant que fonctionnaire, et ça, elles le remettent pas du tout en cause. C'est pas du tout des enseignantes qui ont essayé de contourner les lois dans l'école publique et qui en seraient sorties comme ça, défaites. Pas du tout. Elles sont complètement conscientes de cette impossibilité, et donc, très tôt, soit dans leur parcours universitaire, soit en début de carrière, elles en sortent et elles se tournent vers ces établissements privés musulmans. Au passage, elles ont beaucoup à y perdre parce que ce sont des petits établissements hors contrat, avec peu de moyens, donc les salaires y sont très faibles. très peu de possibilités d'évolution de carrière et puis une instabilité aussi hein, de ces établissements. On le voit bien quand on perd le contrat, quand l'établissement est fermé. Donc voilà, il y a cette motivation-là qui est assez centrale. Et puis il y a des enseignantes qui sont beaucoup moins formées aussi parce que je pense qu'il faut le dire aussi, le secteur privé musulman hors contrat, il se caractérise aussi beaucoup par son amateurisme en fait. Il y a énormément d'enseignantes qui ne sont pas formées, qui se forment sur le tas et qui c'est leur première expérience d'enseignement dans les écoles musulmanes.
Justement, sur ce point-là précis, quelle relation demeure tout de même avec l'État? Est-ce que l'État continue de contrôler l'évolution du niveau des élèves, de leur évolution aussi quant au respect du programme et des programmes scolaires, par exemple?
Oui, alors le contrôle, il existe et évidemment, les établissements ont le sentiment d'être trop inspectés, trop contrôlés.
Ils le sont plus que d'autres, effectivement?
Alors, moi, j'avais le sentiment, effectivement, jusqu'à une période récente, qu'il l'était plus que d'autres. Et c'est aussi ce que faisaient ressortir, par exemple, les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les violences scolaires liées à Bétharram, où il y avait tout un parti de la commission, toute une partie du travail de la commission qui s'est intéressée aux inspections. Et effectivement, là, on a quand même eu les preuves que les établissements privés sous contrôle ont très très peu été inspectés jusqu'à présent. Donc c'est en train de changer, il y a des annonces qui ont été faites en ce sens et on peut que s'en réjouir. Et donc il semblerait qu'il y a une politique de rattrapage là et que désormais tout le monde est plus inspecté, plus contrôlé. Mais effectivement, quand on reprend par exemple le cas Averroès, on ne peut pas ignorer que l'établissement a été énormément inspecté depuis son ouverture, ce qui n'est pas le cas d'établissements typiquement Bétharram, dont on a découvert qu'il a été très très peu inspecté, alors même qu'on sait les problèmes qu'il pouvait y avoir.
Julien Bisson.
Vous rappelez l'établissement Averroès et on a rappelé au départ de cette émission les suspicions de la mouvance frériste à l'intérieur de cet établissement. Si on parle plus généralement de l'enseignement des écoles privées musulmanes, quelle est la place de l'enseignement de la religion? Comment est-elle, l'islam est-il enseigné dans ces écoles?
Oui, alors je pense que c'est absolument central de rappeler, à côté des motivations qui peuvent être purement scolaires, hein, tout à l'heure on parlait de la volonté d'avoir des excellents taux de réussite, etc. À côté de ça, il y a aussi cette volonté d'avoir un enseignement spécifique, pensé par et pour les élèves de confession musulmane, ce qui est tout à fait permis par le caractère propre, la loi Debré. Donc en fait, ce caractère propre, il se décline de plusieurs manières dans les établissements privés musulmans. D'une part, il y a des cours de religion qui sont proposés aux élèves, notamment en faisant une place centrale au Coran, puisque la mémorisation du Coran, c'est une pratique qui est extrêmement importante pour les croyants musulmans, ne serait-ce que pour faire sa prière. Quand on est un croyant musulman, eh bien, on a besoin de connaître par cœur au moins 2 sourates du Coran. Donc c'est extrêmement important en fait de cette mémorisation et cette place qui est accordée au Coran, d'autant plus, comme le disait le père de famille tout à l'heure dans l'extrait sonore que vous avez passé, que c'est des choses qui sont pas forcément bien maîtrisées par les parents eux-mêmes en fait. La religion, c'est un apprentissage qu'ils ont pas forcément reçu dans leur enfance parce que justement ils étaient dans les écoles publiques et il y avait pas cette offre scolaire qui existait. Donc il y a à la fois ces cours de religion qui sont proposés et puis il y a aussi toute la pratique du culte qui est permise au sein de ces établissements. Donc, pratiquer la prière, par exemple, avec un espace de prière qui peut être proposé aux élèves. Donc, soit on y va en groupe dans les établissements hors contrat qui ont un caractère propre plus affirmé. C'est une prière qui se fait de manière collective. On y va en groupe, on y va avec sa classe et c'est intégré à l'emploi du temps. Soit dans les établissements sous contrat, effectivement, ça relève plus d'une option qui est rendue possible aux élèves.
En parallèle du contrôle sur les programmes scolaires, est-ce que cet enseignement religieux, lui aussi, est contrôlé par l'État ?
Alors, en principe, il n'est pas central dans l'objet du contrôle de l'État. C'est-à-dire que en principe, on peut proposer un caractère propre qui soit assez poussé. Ça peut être le cas, je sais pas, on peut penser à des établissements catholiques ou juifs, orthodoxes, qui proposent énormément d'enseignements religieux dans leur caractère propre. Et en principe, ce n'est pas un souci. Ce qui s'est passé après les attentats de 2015, c'est que les directives ont changé et il y a eu l'idée de quand même vérifier que ce caractère propre n'était pas contraire aux valeurs de la République. Et donc là, ça devient parfois plus complexe. Comment évaluer ces valeurs de la République? Comment aller voir dans ce caractère propre, notamment si les cours utilisent des textes en arabe, ça peut être compliqué pour les inspecteurs qui ne maîtrisent pas forcément cette langue, par exemple.
Merci beaucoup, Diane-Sophie Girin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, À l'école musulmane, une école à soi dans la France post-attentat. C'est au PUF, aux presses universitaires de France. Merci à vous et merci également à Julien Bisson. Je me tourne vers vous et j'aperçois en une de l'hebdomadaire Le 1 de cette semaine un visage.
Oui, le visage de George Orwell. On se demande si George Orwell est toujours actuel. Alors que les parallèles avec 1984 se multiplient, on revient dans le texte d'Orwell et dans son combat contre le totalitarisme.
Se procurer Le 1, donc, et le lire, c'est un bien bon conseil. Merci à vous deux, merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Bertie Bourdon, Audrey Carme, Rodi Eken, à la réalisation, Léa Racine.